Chers amis, je suis contente de revenir parmi vous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Dominique Ranaïvousson de Reims, un ami de Air et Phare qui a finalement, par eux, pris un abonnement chez vous. Donc nous revenons de temps en temps. Je vous invite à des lectures. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon marque-page, merci. Alors, je vous invite à lire trois passages que Hein va projeter, je pense. Premier passage, qui sont trois versets du psaume 119. Vous savez que le psaume 119, il y a 175 versets, donc on va faire des économies de temps et de salive et sélectionner un certain nombre de passages. Est-ce que ça y est? Voilà. Donc, le verset 105... Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Le deuxième verset 125. Il arrive. Je suis ton serviteur, ouvre-moi l'esprit pour que je connaisse bien tes ordres. Et le troisième verset 130. Découvrir ta parole apporte la lumière, elle donne du discernement au simple. Autre version, elle donne de l'intelligence au simple. Deuxième étape de nos lectures, c'est dans le Nouveau Testament, une brève mais percutante déclaration de Jésus dans Jean 8. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Et un troisième passage plus long dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Donc Corinthiens, ce qui nous intéresse dans les Corinthiens, c'est que c'est à Corinthe, et Corinthe, ville de Grèce, donc des gens formés à la grecque. Alors, je me tourne la tête parce que je n'ai pas tout à fait la même version. En effet, prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre folie ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Alors, je vais reprendre parce qu'il manque des petits morceaux. Alors, après, Paul cite, nous y discernons la puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare. Et il cite Ésaïe, « Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. » Fermez les guillemets et il reprend, Paul reprend en interpellant les Corinthiens, alors qu'ils se disent sages, hein, Corinthe, la philosophie grecque, amène à la sagesse. Alors, que peuvent encore les sages, ou les gens instruits, ou les discoureurs du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Nous prions. Seigneur, cette parole qui nous vient du fond des âges, c'est toujours toi qui l'as suscitée. Tu es passé par des générations et des générations d'hommes et de femmes auxquels tu as révélé le secret de ta sagesse. Cette sagesse qui culmine en ton Fils Jésus-Christ. cette sagesse inabordable sans l'aide de ton Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons sonder tes Écritures en croyant qu'elles viennent de toi et en sachant pertinemment aussi que nous n'avons pas suffisamment d'intelligence pour en comprendre toutes les dimensions, toute la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur. Seigneur, tu es en dehors de nous, tu es plus grand que nous, mais tu veux quand même entrer dans nos petites vies. Nous demandons l'aide de ton Saint-Esprit, soit pour parler, soit pour écouter, pour vivre avec toi et par toi. Amen. Cette interpellation, que peuvent les sages ou les gens instruits ou les discoureurs du temps présent? Cette interpellation est exactement la même qu'aujourd'hui. Les sages, c'est qui? Les gens instruits, c'est qui? C'est les gens qui ont des diplômes. Et à quoi ça sert? Comment on a des diplômes? On monte dans l'institution scolaire. Et l'institution scolaire, ici dans la République française, elle est fondée sur la raison, sur la rationalité, sur ce qu'on appelle l'intelligence. Cette institution scolaire, je suis prof, elle est directement héritée de la philosophie grecque, de ces Grecs qui habitaient à Corinthe. C'est-à-dire, l'homme peut tout. C'est là, c'est la philosophie, et on aime la sagesse, philosophia. Et avec la sagesse, une fois qu'on l'a acquise avec notre tête, on est capable de tout. Et quand on a des diplômes, qu'on a bien réfléchi, on est au pouvoir, on est élu, on a des responsabilités, on dirige le monde et on a confiance dans ce système. Et de la base, décidément, je suis... Il n'y a pas assez de place pour moi. Merci. Et donc nous sommes dans la même situation. Nous sommes conduits dans ce à la grecque. Et il n'y a pas de mal à ça, nous sommes fiers. Notre civilisation, notre culture est gréco-latine, judéo-grec-latine. Et toute la philosophie dans les lycées conduit à ça, nous projette, nous forme à être autonome. C'est le grand mantra des enseignants. Il faut apprendre à être autonome, il faut avoir l'esprit critique, il faut conduire par nous-mêmes notre vie. Bilan. Le bilan, c'est qu'on croit en ça. On croit que l'intelligence nous libère, que la sagesse humaine va nous aider à conduire le monde. Depuis 2000 ans qu'on fait ça, regardons l'état du monde, regardons nos sages, regardons les chaînes de 24 sur 24, nous avons les discoureurs. J'espère que vous ne les regardez pas trop. À longueur de soirée, ils savent tout sur tout. Ils décryptent, comme ils disent. Ils nous aident à décrypter le monde, comme s'ils avaient les clés de l'interprétation du monde. Parce qu'ils sont docteurs en machin, enseignants dans trucs, journalistes, spécialistes. Et avec recul, vous voyez que personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Donc cette sagesse du monde dans laquelle on place notre espérance, elle montre à chaque instant ses limites, voire sa faillite. Alors, si on a confiance, on est déçu. Et si on n'a pas confiance, on se dit, mais si ce n'est pas là, c'est où? Et on retombe sur le psaume 121 qui a déjà posé la question, rien de nouveau sous le soleil. Il dit, mais je regarde du haut des montagnes, d'où me viendra le salut? Si je regarde en haut, ça veut dire que j'ai compris que le salut ne vient pas d'en bas. Si le salut ne vient pas des gens intelligents, alors où? Alors qui? Puisqu'il n'y a... Et le psalmiste, lui, il a trouvé, il répond. Il dit, je lève la tête, y a-t-il quelqu'un? C'est ce qu'on dit vulgairement, y a-t-il un pilote dans l'avion? Que ce soit pour le pays de la France, ou pour l'humanité, ou pour la Terre. Tous ces désordres, y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça veut dire, l'avion va-t-il quelque part? Ou va-t-il dans le mur, comme disent souvent les détracteurs? S'il n'y a personne, et la plupart de nos soi-disant sages partent du postulat que non, il n'y a personne. n'est pas la peine de chercher. Il n'y a personne qui conduit, il n'y a pas de sauveur. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On bricole. Le bricolage, c'est un mot vulgaire, mais ça a été aussi érigé en concept par Lévi-Strauss. Et on bricole, eh bien, on fait des choses qui nous distraient du désastre. S'il n'y a personne, c'est le désastre. Et on ne peut pas vivre face au désastre. Donc, il faut trouver des voies parallèles. Et il y a deux semaines, dans l'émission de la Grande Librairie, émission des littéraires, je suis une littéraire, désolée, personne n'est parfait. Donc, il y avait Daniel Pénac, un écrivain très amusant. Les livres sont rigolos. Donc, on s'attend à quelqu'un de rigolo. Il écrit pour les enfants et pour les adultes, voilà, très léger. Et on lui dit, mais pourquoi vous écrivez tout ça? Il dit, pour ne pas oublier, j'ai retenu la citation, pour supporter l'insupportable. Supporter l'insupportable. Ça veut dire qu'il a réalisé que c'est pas la peine de faire des grandes questions parce qu'il n'y a pas de réponse. L'insupportable de non-Dieu, de non-espérance, alors on fait des choses rigolotes. Hein, on bricole. Et l'écrivain Giono, que j'ai beaucoup étudié, et qui a écrit beaucoup d'aventures très amusantes, du matin au soir, il écrivait des romans et il disait lui-même qu'il a trouvé ça comme truc. Il utilisait le mot, c'est un truc pour ne pas penser à l'absurde de la vie. Donc, la raison humaine, les systèmes humains, et en particulier les systèmes basés sur la raison qu'on appelle les Lumières, avec L majuscule, depuis le XVIIIe siècle, mais c'était depuis la Grèce en fait, hein, que c'est la raison qui nous gouverne. On est si fiers de ça en France, parce que les Lumières ont été développées par les philosophes français. Les Lumières n'éclairent pas tant que ça les chemins. Les chemins de vie, les chemins d'espérance ne donnent pas d'espérance. Et voilà que la Bible nous rejoint, nous rattrape dans cette spirale du découragement collectif et individuel. Et la déclaration de Jésus, ce n'est pas la peine de faire une grande lecture, parce qu'avec Jésus, une seule formule claque comme un coup de pistolet. Je suis la lumière du monde. Et il ne met pas de L majuscule à lumière, il n'a pas besoin du pluriel, une seule lumière. Je suis la lumière du monde. On dit, mais quel impertinent celui-là! Il se croit plus que les rationalités des Grecs, il se croit plus que nos grands philosophes. Ah, Voltaire et Diderot, c'est quand même quelque chose. Jésus vient contredire cette souveraineté dans la libération de la raison humaine. Il vient donc heurter, choquer, contredire, particulièrement dans les pays de culture gréco-latine, particulièrement en France. D'où, peut-être, hein, c'est mon interprétation, la dureté de la France, parce que tout le monde est construit sur cette rationalité toute puissante. Alors, est-ce que accepter la lumière de Jésus, c'est complètement renier la lumière de la raison? Autrement dit, est-ce que les chrétiens doivent être des gens qui s'arrêtent de penser? C'est ce que pensent les rationalistes. Ils disent, oui, les gens croyants, oh, c'est les gens stupides. Hein, il n'y a plus que les gens bébêtes qui croient ça. Hein, tous les gens intelligents, n'est-ce pas? Ils ont accès à la raison, à l'intelligence. Hein, on va laisser ça aux pauvres types, hein, ou aux pauvres mémés. Il y a une caricature du chrétien qui, en partie fondée sur cette concurrence des lumières. Qui est-ce qui illumine notre chemin? Je crois que la Bible et le chrétien, il n'est pas condamné à ne pas réfléchir, autrement dit, à suivre bêtement et à tourner le dos à l'éducation. C'est bien pour ça que Paul va en Grèce et s'adresse aux Athéniens, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, tous des gens qui ont leur philosophie, qui réfléchissent. Il ne dit pas, oh, ils ont une bonne philosophie, on va les laisser tranquilles avec leur philosophie. Non, il va chez eux et il leur annonce Jésus-Christ crucifié, parce qu'il sait que malgré leur philosophie, ils ont besoin du salut en Jésus-Christ. Alors, on peut se poser la question, comment fonctionne donc le Dieu de la Bible? Comment le comprendre? Aussi notre intelligence n'est plus suffisante. Parce que comprendre, dans le sens commun du terme, c'est capter. C'est que notre intelligence maîtrise entièrement la chose. Et quand on dit notre intelligence maîtrise la chose, ça veut dire que nous sommes au-dessus de cette chose. Quand vous savez faire un exercice ou de la couture ou je ne sais pas quoi, ça veut dire que vous dominez la chose. Est-ce qu'il y a un moment dans notre vie où nous comprenons Dieu ? Ça veut dire où nous sommes au-dessus de sa logique. Nous sommes au-dessus de la Bible en disant « ça y est, j'ai tout compris ». Il n'y a aucun moment. Donc comment accepter quelque chose qu'on ne comprend pas ? C'est totalement contraire à ce qu'on nous a dit. Attention, hein, il faut l'esprit critique. Si vous n'avez pas compris, il faut rejeter. Alors à quoi sert l'intelligence ? L'intelligence, c'est pour ça que j'ai lu l'autre traduction dans les psaumes, elle est aussi appelée discernement. Il ne s'agit donc pas de quantifier les compétences de quelqu'un, mais de prendre acte que tout homme est doué d'une perception du monde et de lui-même. On a tous une capacité à se gérer, à prendre des décisions, à écouter, mais les incroyants postulent que ça suffit et les croyants postulent que ça ne suffit pas. Mais tous, nous pouvons confesser que nous sommes créés avec une capacité de comprendre et de percevoir les choses. Mais cette boussole intérieure, autonome, elle est pas suffisante. Et nous sentons bien qu'à titre individuel, j'ai parlé des puissants en introduction, mais nous devons tous nous gérer, c'est-à-dire tracer notre route, tracer notre chemin à titre individuel. Avec quelle boussole ? Qui va nous aider à prendre nos décisions ? Est-ce que c'est notre intelligence pure ou est-ce qu'il faut autre chose ? Et le psalmiste, bien avant Jésus, reconnaît, c'est le premier pas de la foi, qu'une lumière extérieure est nécessaire. Que non, mon intelligence ne suffit pas à orienter mes pas dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de trouver Dieu, dans le sens de trouver du sens justement à ma vie. Cette parole de Dieu, elle connaît les limites de nos cœurs, elle sait aussi que nous sommes tous orgueilleux. Cette parole, elle est capable de nous aider à discerner le l'embrouillamini que sont nos vies. Ce n'est pas du tout un chemin, une autoroute, nos vies. C'est compliqué, c'est très compliqué. Parce que nos vies sont compliquées, parce que nos cœurs sont compliqués. Parce qu'il y a les forces du mal. Parce que la vie, ce n'est pas seulement les choses extérieures, c'est en nous. Cette parole de Dieu, elle est capable de mettre de la lumière en nous. Et cette parole de Dieu, elle devient incarnée en Jésus. Jésus devient parole vivante et redit. Il capte, il dit la même chose que le psaume, mais sauf que la parole, elle est en lui. C'est lui qui ouvre le chemin jusqu'au Père. Et comment l'ouvre-t-il ? Pas seulement en disant des belles paroles, mais en incarnant le principal problème, qu'est le mal, et en réglant ce principal problème. Comment ? Pas par des grandes déclarations philosophiques, ça c'est les Grecs qui font ça. Il y a des grands problèmes humains, on réfléchit beaucoup et on trouve des solutions par soi-même. Jésus, il ne fait pas ça. Il n'est pas un sage au sens grec du terme, ni au sens bouddhiste du terme. Il est un actif. Il règle la question du mal en prenant ce mal sur lui et en acceptant de mourir sur la croix. C'est beaucoup plus violent qu'une belle dissertation. C'est beaucoup plus scandaleux, mais c'est beaucoup plus efficace. Il meurt une seule fois, et parce qu'il est le Fils de Dieu, il ressuscite une seule fois pour être vainqueur. Pour être vainqueur, non pas pour lui, mais pour nous, pour les bénéficiaires de cela. Et pourquoi est-ce que ce principe de libération, au lieu d'un principe intelligent, est-il une folie ? Est-il si scandaleux ? Pourquoi est-ce si difficile, ici en France et dans beaucoup d'endroits, de le transmettre ? Il me semble que c'est pour plusieurs raisons. D'abord, parce que cette croix renverse nos hiérarchies de valeurs, renverse cette sacralité de la raison. La fameuse raison qui nous aide à maîtriser. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas comment Jésus a pu capter le péché du monde sur lui. C'est quelque chose qui est en dehors de nos intelligences. Enfin, s'il y a quelqu'un qui a compris dans la salle, je veux bien lui laisser le micro. Et comment il a fait pour ressusciter ? Qui a compris parmi nous ? Comment Dieu a fait pour créer le monde ? Personne, aucun humain ne comprend. Et ça nous dérange. Nous avons tous appris qu'il faut maîtriser les choses avant d'y adhérer. Donc vous voyez, c'est le scandale. Comment entrer dans une voie qui m'est en réalité fermée, qui est fermée à la voie que je veux toujours suivre, la voie de la raison. La démonstration est philosophiquement impossible, donc c'est inacceptable. Deuxième raison, la croix manifeste, la croix et la résurrection, que c'est Jésus qui sauve, et pas moi, et pas ma sagesse, et pas mon parti politique, ou et pas ma gymnastique, mon yoga, ou je sais pas trop, ou mes lectures de grands auteurs. Et ça fait mal à l'orgueil. Hein? Parce que nous sommes éduqués, je suis un grand, je suis grand, je suis adulte, je suis intelligent, je vais me débrouiller tout seul dans la vie. On apprend aux enfants depuis qu'ils sont tout petits, apprends à te débrouiller tout seul. Hein? Il est autonome. Ça, c'est le moteur de l'éducation. Et c'est le début de la perte. Nous voulons tous être autonomes par rapport à Dieu. Ah, Dieu, laissons-la au ciel. Moi, je suis autonome, je me débrouille. Et puis, le jour où on se casse la figure, ah, peut-être un petit peu. Donc, c'est humiliant. Finalement, la croix est inacceptable à cause de notre orgueil. Nous voulons nous libérer, nous voulons nous sauver tout seuls. Et ces deux réactions normales nous entraînent nos contemporains à être violents, à être scandalisés. Et nous faisons des groupes bibliques avec des gens qui ne sont pas chrétiens. On dit, mais la croix, mais c'est idiot ça, c'est complètement injuste. Et ils ont raison, je leur dis oui, tu as raison, c'est injuste. Un seul qui meurt pour tous, c'est complètement injuste, vous êtes d'accord avec moi? Mais, il y a un mais, c'est le choix de Dieu. Dieu a choisi d'envoyer son fils dans le monde. C'était un guet-apens. C'était truqué d'avance. Mais c'était son choix. Et quand nous refusons ça, finalement, intérieurement, c'est que, et d'ailleurs d'autres, des gens dans les groupes l'expriment en disant « Ah oui, mais moi j'aurais fait autrement. Hein. Mettre Jésus sur la croix, c'est une bonne idée, c'est une idée ridicule. Moi j'aurais fait autrement. » Et quand on fait ça, intérieurement, qu'est-ce qu'on fait ? On se met au-dessus de Dieu. On dit, pour sauver le monde, il faut, vous entendez tout ça, hein ? Il faut ramasser les ordures, il faut purifier la mer, il faut voter comme ça. On trouve toutes sortes de moyens pour sauver le monde. Mais en réalité, le vrai salut, c'est autrement. C'est un chemin qui est inconfortable pour notre orgueil et pour notre intelligence. Autrement dit, il nous faut retrouver le chemin du psalmiste, verset 125, le psalmiste demande à Dieu « Ouvre-moi l'esprit ». Si nous restons dans toutes ces voies normales, de notre éducation normale, parce que nous avons été formés comme ça, ce n'est pas notre faute. Il nous faut une révolution dans notre esprit. Il faut changer nos logiciels, comme on dit maintenant. Et qui va changer notre logiciel si ce n'est pas le Saint-Esprit ? Nous ne sommes pas capables de changer la manière d'aborder Dieu, d'aborder le monde, d'aborder notre vie. Et le psalmiste répond, « Ta parole donne du discernement. » Donc l'esprit et la parole. Voilà les deux outils qui vont nous aider à changer de l'intérieur. Et en changeant de l'intérieur, on va voir l'extérieur autrement. Cet extérieur, c'est nous-mêmes d'abord, c'est notre société. Et c'est le monde. Alors, est-ce que c'est difficile ? Est-ce qu'il faut être intelligent pour faire ça ? Donne-moi de l'intelligence. Ta parole donne de l'intelligence. Ta parole donne du discernement. Il n'y a pas de niveau de quotient intellectuel. Vous savez, toujours cette pauvre école, hein, je lui tape dessus, mais j'en suis solidaire quand même. Mais à l'école, et la psychologie dit qu'il y a des gens intelligents, moyennement intelligents, très intelligents. On mesure ça avec le QI, coefficient d'intelligence. À quel moment le QI suffit pour comprendre Dieu ? Et Jésus dit, bienheureux les simples d'esprit. Parce qu'il n'y a pas de coefficient d'intelligence ou sens humain. Par contre, il y a un coefficient de confiance. Il y a un QC, coefficient de confiance. Ça, c'est très, très, très important. Mais les deux ne sont pas en relation. Et parfois, plus on a confiance dans sa propre intelligence, moins on a de confiance. C'est pour ça que Jésus valorise les simples d'esprit. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les gens intelligents, mais il sait très bien que plus on a de l'intelligence, plus on est orgueilleux et plus on est fermé à ce Saint-Esprit pour faire le ménage dans notre vie. La lumière de l'esprit transforme et nous voyons seulement à la lumière de l'esprit cette croix de Jésus qui n'est plus un scandale mais qui est le lieu de notre libération. Le Vendredi Saint n'est plus un lieu d'échec, mais un lieu de victoire. Ce n'est pas un jour de deuil. Moi, je connais des gens qui disent « Oh, le Vendredi Saint, c'est terrible parce que Jésus, il est venu faire un bon message, puis tout le monde l'a tué, c'est vraiment l'échec. » Non, le jour de la croix, c'est le jour de notre propre libération, de nos chaînes intellectuelles, de nos chaînes d'orgueil. La foi, c'est donc accepter qu'une autre logique, et la logique, c'est des mathématiques, ça vient des Grecs encore. Les pauvres Grecs, ce sont nos ancêtres. Mais alors, qu'est-ce qu'ils nous font du mal dans l'accès à la foi ? Et Paul s'adresse à eux et à nous. Et il faut accepter d'être renouvelé, mais même en étant renouvelé, il y a encore beaucoup de choses dans la Bible et en Dieu que nous ne comprendrons pas. Et ça encore, c'est humiliant, même parmi les chrétiens. On veut chercher, mais pourquoi il a fait si tel deuil, telle façon d'être le monde? Mais pourquoi Dieu? Pourquoi Seigneur? Je ne comprends pas. Alors peut-être qu'on lit mal la Bible, peut-être que si, peut-être que ça. Il n'y a pas de peut-être. La réponse est que Dieu ne veut pas nous donner toutes les réponses. Et pourquoi il ne fait pas ça alors qu'il nous aime? Parce que justement parce qu'il nous aime, il ne nous donne pas des réponses parce qu'elles sont trop difficiles pour nous en ce moment. Et c'est la même chose. Pourquoi on fait sortir les enfants? Parce que ce message-là est trop difficile pour eux. Donc ça ne sert à rien de leur mettre ça dans la tête. Donc avec Jésus, c'est la même chose. Quand il va partir dans l'évangile de Jean, les disciples sont paniqués, ils posent plein de questions. Il dit « Ah, je ne vous donne pas les réponses parce que vous ne pourriez pas les supporter maintenant ». Donc Dieu nous laisse frustrés dans notre intelligence, dans notre logique, dans notre soif de tout connaître, de tout dominer. Dieu ne nous laisse pas tout dominer. Il veut que nous soyons soumis quelque part. Et ça, l'orgueil, on n'aime pas du tout être soumis, hein, ni vous ni moi. Nous voulons être autonomes. Non, pour l'instant. Et alors quand est-ce que ça va finir cette histoire de frustration? Quand est-ce que nous saurons enfin pourquoi il s'est passé ceci ou cela dans notre vie? Pourquoi il y a encore des guerres? Pourquoi il y a encore des malheurs dans le monde? Pourquoi ci, pourquoi ça? Est-ce que nous sommes condamnés à rester comme ça, en suspens, avec un Dieu comme Père qui ne nous dit pas tout? Il ne nous dit pas tout pour nous épargner, mais la promesse, c'est que dans le royaume, un jour, comme dit Paul, toujours aux mêmes Corinthiens, il leur dit, vous inquiétez pas, aujourd'hui, nous voyons de manière déformée, comme dans un miroir. Mais un jour, nous serons face à face. Et là, Dieu nous expliquera tout. Et ce jour face à face, alors, notre intelligence, notre compréhension de l'ensemble du projet de Dieu sur nous et sur le monde sera claire. 1 Corinthiens 13, verset 12. « Alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. » Patience donc, hein, avec cette frustration, cette reconnaissance, la lumière, elle est là, elle vient dans notre vie. Alors, dernier point, je termine par là, parce que c'est le sujet de Paul. Est-ce que c'est tellement difficile, hein? Vous voyez que ce message, il est profondément puissant, libérateur, mais profondément opposé à notre éducation française. Comment faire comprendre ça à nos frères et sœurs républicains français comme nous? Alors, première tentation, édulcorer un peu. On arrondit les angles. On dit oui, c'est une sagesse. Et là, on rejoint les Grecs. La Bible, c'est pour réfléchir. C'est intéressant. Et Paul dit non. On ne va pas... Ça s'appelle de la démagogie, ça. On prêche le faux pour ramasser les gens. Et puis, en fait, c'est sur un faux message. La démagogie sur la croix, en particulier. L'autre tentation, c'est de bien parler. Et Paul, il s'adresse à des gens, aux Grecs. Il s'entraîne. La rhétorique, c'est la base de notre éducation. À nous, en France, c'est hérité des Grecs encore. Ça consiste à bien parler. Mais bien parler au sens formel. Bien parler, ça s'apprend. Poser sa voix, faire un plan. Moi, j'ai des étudiants, on leur apprend. Introduction, trois parties, conclusion. Et quand vous faites ça bien, 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 le contenu, c'est pas grave. On peut parler très, très, très bien, des beaux orateurs. Et vous avez, même dans les églises, ou des députés, ou des avocats, oh, il a bien parlé, hein. C'était beau. Quand on parle bien, on peut embobiner les gens. On peut les fasciner. Mais au détriment, parfois, du contenu. Et Paul, justement, il dit, ma prédication, elle n'est pas construite sur la rhétorique. Elle n'est pas construite seulement sur la rhétorique. Elle n'est pas construite sur du blabla technique. Elle est construite sur précisément ce qui vous fait mal, c'est-à-dire la croix de Jésus. Donc parler, c'est utile, mais finalement, c'est parler pour amener les gens à demander le Saint-Esprit pour comprendre que leur intelligence est limitée. Vous voyez, le paradoxe, c'est une contradiction ce que je suis en train de dire. Comprendre que l'intelligence ne suffit pas. On comprend avec notre intelligence, mais une intelligence éclairée, renouvelée par le Saint-Esprit. C'est cela que nous pouvons et devons demander pour rester dans l'humilité et pour avoir le regard transformé sur Jésus. Et pour ensuite être capable de le transmettre aux autres, à ces autres qui sont nos contemporains, qui sont forgés comme les Corinthiens. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, tu vois que nous sommes forgés ici à l'autonomie intellectuelle, à la confiance dans nos propres capacités. Et cela nous conduit à chercher à toujours tout comprendre et à nous arrêter quand nous ne comprenons pas. Nous demandons la lumière, la vraie lumière, pas celle qui vient de la raison humaine, mais celle qui vient de ton esprit, qui est seule capable de nous rejoindre tout au fond de nous et de remplacer notre orgueil, de transformer notre façon de voir et de comprendre pour que nous comprenions que tu es le Dieu tout-puissant qui sait tout, qui connaît tout, mais qui ne nous dit pas tout, qui nous dit seulement ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, c'est que nous comprenions que Jésus vient jusqu'à nous, nous éclairer dans ce monde de ténèbres, dans ce monde compliqué, dans notre vie intérieure, pour nous faire marcher à sa suite. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans cette lumière. Lumière de salut, lumière de liberté, lumière de liberté dans la dépendance. Amen.